Alors, épître de Paul aux Romains, chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors oui, dans le verset 1, la semaine dernière, on a vu que Dieu souhaitait qu'on lui offre nos corps comme une offrande vivante. Alors ça ressemble un petit peu au sacrifice qui avait lieu à ce moment-là. Quand on parlait de sacrifice ou d'offrande, les gens savaient ce que c'était que faire l'offrande, un sacrifice d'un animal pour une divinité. Et là, donc, les juifs, la culture juive, on avait en tête tous les sacrifices du Lévitique. Et donc, dans la Nouvelle Alliance, on n'offre pas des animaux pour être agréable ou agréé par Dieu. On s'offre nous-mêmes, mais comme une offrande vivante. C'est quelque chose qui est indispensable pour la sanctification, rappelle Paul dans l'épître aux Romains. On va évoquer cela tout à l'heure. Une offrande vivante, c'est une offrande qui bouge. C'est faire des choses. Alors, comment savoir ce qu'on doit faire avec notre corps? Comment discerner la volonté de Dieu pour nous dans nos vies de tous les jours et également dans les grandes décisions parfois qu'il faut prendre? Comment connaître la volonté de Dieu pour l'accomplir et pour lui être agréable? Et donc, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au monde présent. Ne suivez pas les schémas du monde. Et le monde présent, c'est le siècle. C'est à ce siècle. Ne vous conformez pas à ce siècle. Et donc à ce siècle, c'est valable pour tous les siècles et pour toutes les générations de chrétiens. Et nous aussi, nous avons à ne pas nous conformer au monde présent. Pourquoi ? Parce qu'on est citoyen des cieux, on n'est pas de ce monde présent. Nous sommes que des simples pèlerins, un simple pèlerin, un pèlerinage. On a quitté son Égypte pour se rendre conduit par l'Esprit de Dieu dans la terre promise, la demeure du Père Céleste. Et donc nous sommes en chemin. Nous ne sommes pas de ce monde. Et une personne qui a reçu l'Esprit Saint est radicalement différente d'une personne qui n'a pas reçu l'Esprit Saint. C'est une différence fondamentale. Soit on est dans le peuple de Dieu, soit on n'est pas du peuple de Dieu. Moi, j'aime bien comparer les oiseaux, la faculté qu'ils ont, les oiseaux, par rapport aux autres aux animaux, si on considère un chat ou autre chose. Ben, l'oiseau, lui, il prend de la hauteur et il voit les choses que les autres ne voient pas, que les animaux terrestres ne voient pas, que même nous-mêmes, on voit pas, on voit qu'à notre niveau. Mais eux, ils ont des paysages formidables. Quand je les vois traverser à toute vitesse, je me dis qu'est-ce qu'ils ont de la chance, ceux-là. On a l'impression qu'ils sont libres, on a l'impression qu'ils peuvent tellement voyager à travers toute la planète. Et quand ils sont dans le ciel comme ça, ils sont comme intouchables. Les chats, ils les regardent, ils ne peuvent absolument rien faire. Le chrétien n'est pas de ce monde pour devoir se ranger à sa façon de voir. un oiseau n'est pas destiné à se promener et à rester sur terre. Il est destiné à déployer ses ailes et à voler. Pour autant, il n'y a pas de différence apparente entre un chrétien et un non-chrétien. Les deux mangent les mêmes aliments, les deux vont à la même, au même travail, dans les mêmes écoles. Les deux payent des impôts, les deux vont voir les mêmes médecins, hein, et les deux aiment et s'occupent de leur famille. Mais pourtant, ils sont différents. Le chrétien a l'Esprit Saint en lui. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés. C'est le mot grec est métamorpho, qui a donné en français le mot métamorphose. Il est traduit ce mot-là ailleurs par transfigurer. Soyez transformés, soyez transfigurés. En Matthieu chapitre 17, versets 1 à 3, c'est le mot qui est utilisé pour que les auteurs, les apôtres, les auteurs du Nouveau Testament ont utilisé pour décrire le spectacle qu'ils ont vu sur le mont de la Transfiguration. Matthieu 17, 1 à 3. 6 jours après la déclaration, comme quoi quelques-uns ne mourront pas avant qu'ils aient vu le Fils de l'homme venir dans sa gloire. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme de la lumière. Métamorphosé. On le trouve également, ce mot, dans la deuxième épître aux Corinthiens. Chapitre 3, versets 17 et 18. Nous lisons ceci. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Soyez transformés. On va, mercredi à notre étude, on regardera plus en détail ce passage. John Piper a consacré un livre entier à ce passage-là. Soyez transformés. C'est un temps qui est un verbe au présent. C'est soyez transformés maintenant. Quand il était question d'offrir son corps à Dieu, c'était une fois pour toutes. C'était le temps aoriste. Mais là, c'est un temps présent, c'est une voie passive. On ne peut pas se transformer soi-même. On doit recevoir cette transformation, on doit être transformé, et c'est un impératif. Il faut donc se laisser transformer. Par le renouvellement de l'intelligence, quelque chose qui est neuf, qui est neuf à nouveau, et l'intelligence, c'est la pensée, c'est le bon sens. Alors, une pensée, une intelligence toute neuve, pour faire quoi? Pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Discerner, c'est aussi apprécier, c'est aussi approuver. Et comment on va discerner cela, comment on va discerner cela, c'est intéressant. Il faut discerner où le renouvellement de l'intelligence nous fait discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Une certitude, c'est que la volonté de Dieu est toujours bonne, agréable et parfaite. Même si on est parfois surpris des tournures que cela peut prendre dans les circonstances de nos vies. C'est bon, c'est ce qui est bien, c'est agréable, c'est ce qui plaît, c'est ce qui est plaisant, et c'est parfait, c'est complet, c'est accompli, il ne manque rien à cela. Cela fait peut-être un contraste avec l'apôtre Paul, ce qu'il disait au début de sa lettre. Voici ce qu'il a écrit au début de la lettre aux Romains, chapitre 3, versets 9 à 12. Cette conclusion qui a peut-être éveillé un pas d'accord dans notre cœur. Quoi donc, sommes-nous plus excellents? Nullement. Nous avons déjà prouvé que tous, juifs, grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et en effet, lequel d'entre nous peut dire, ma vie est bonne, agréable et parfaite? Un seul pouvait dire ça, je pense, c'est Jésus-Christ. Mais nous, on ne peut pas le dire. Et donc, Dieu a raison quand il déclare que nous avons besoin d'être sauvés. Dieu a raison de déclarer ça, que nous avons besoin d'être sauvés parce que nos vies ne sont pas bonnes, agréables et parfaites. Ça me permet de donner l'occasion de nous rappeler de l'Évangile. Alors, j'ai pas fait tourner mon diaporama. L'empire du péché. C'est une belle image avec l'empire de romain qui régnait sur toute la civilisation autour du bassin méditerranéen de l'époque. Il était impossible de la fuir. Il était impossible d'endroit où le péché ne règne pas. Et il est partout. Comme des prisonniers, jusqu'à ce que soit déclarée la justification par la foi par Jésus-Christ qui enlève la condamnation. On a l'actualité qui nous abreuve ce moment de jugement, de comparution devant les tribunaux, de personnes qui ont commis des choses horribles dont on ne comprend pas que cela puisse exister. Mais la grâce de Dieu est supérieure à cela par Jésus-Christ. Jésus-Christ prenant la responsabilité, la conséquence de ces fautes, de ces crimes odieux, non seulement celle du plus grand des coupables, mais également la nôtre dans les plus petites choses qui peuvent peut-être nous sembler insignifiantes, mais qui aux yeux de Dieu, ça ne passe pas devant sa sainteté et devant sa perfection. Justification par la foi en Jésus-Christ, par le sacrifice de Jésus sur la croix de Golgotha, son amour qui a été manifesté à ce moment-là. Une promesse faite depuis le temps d'Abraham et qui s'accomplit en Jésus-Christ à la foi. Et David loue dans exprime sa louange et sa reconnaissance à Dieu d'être pardonné sans qu'il soit fait mention dans aucune manière d'un sacrifice rituel de sa part. Non, c'est un pardon parfait et gratuit qu'il obtient sans qu'il soit question d'accomplir la loi de Dieu, avec une joie profonde qui en découle et le don de l'Esprit Saint. Et si on regarde le temps, donc, depuis le temps de Adam jusqu'à Christ, la loi règne. Avec la venue de la loi, ça s'est encore amplifié. C'est le chapitre 5 qui explique ça. Et puis, Christ est le nouvel Adam. Et en Christ, on trouve la faveur, le pardon, la réconciliation avec Dieu, tandis qu'en Adam, on va vers la mort. Et le but, c'est que Christ croisse et que notre nature qui vient de qu'on hérite de Adam aille en diminuant jusque dans l'éternité. Et donc, Dieu nous donne sa grâce qui coule de la croix pour qu'on obtienne le pardon. Et donc, dans l'échelle des temps, où on est quelque part, on ne sait pas où, ça va se terminer ici, mais depuis la croix, nous sommes au bénéfice de la nouvelle alliance. Quand nous nous convertissons, nous sommes en Christ. Donc le but, ce n'est pas de rester dans le péché, c'est de quitter l'empire du péché. On reçoit, on est mort à notre nouvelle vie, on est mort au péché et on reçoit une nouvelle vie, on est vivant pour Dieu en Jésus-Christ, comme une nouvelle nationalité, comme un nouveau passeport qui nous permet résolument de nous diriger vers le ciel. Dieu nous encourage à passer à temps complet avec lui, à lui offrir nos mains, lui offrir nos corps. C'est du temps complet, lui avec moi, moi avec lui. Il nous secourt dans notre détresse, dans notre incapacité à marcher droit. Souvent nous chutons, souvent nous retombons, mais le sang de Jésus-Christ nous purifie et nous lave de tout péché. Nous ne sommes pas sans secours et nous avançons conduits vers la gloire par l'Esprit, tels les Israélites dans le désert, avec la certitude que Jésus vit en chacun de ses enfants par son Esprit et un jour, la mort ne sera plus. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables dans les derniers chapitres de l'Épître. Donc, le chapitre 5, 6, le chapitre 7 ici, le chapitre 8 et le chapitre 9, 10 et 11. Dieu est celui qui façonne, celui qui contrôle, qui est au contrôle de tout. L'apôtre conclut, qui a pensé quelle profondeur ont la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour être payé en retour? C'est de lui, par lui, pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Donc, d'un état de pécheur, arriver dans la gloire ne peut pas se faire sans transformation. C'est pas la transformation de nos circonstances, comme voudrait souvent, mais c'est la transformation de nous-mêmes. Offrir notre corps à Dieu et avoir nos pensées et notre intelligence transformées par l'Esprit de Dieu. Une transformation continue. Soyez transformés. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un verbe qui est au présent. C'est maintenant. C'est un impératif. Il nous faut être transformés et c'est une voie passive. C'est un autre qui va nous transformer. Une transformation continue parce que la route est longue. La route est longue. Les Israélites, à leur départ d'Égypte, ne s'imaginaient pas que le voyage allait durer des années. Et même s'il a été retardé de 40 ans à cause de leur incrédulité, il n'empêche qu'il était prévu quand même plusieurs années avant de quitter le désert pour se rendre dans la terre promise. La route est longue. Je pense que le Seigneur ne nous fait pas connaître lorsqu'on se convertit l'étendue des transformations qu'il doit opérer en nous, qui sont nécessaires. Et s'il nous montrait tout cela à notre au moment où l'on se convertit, on serait complètement effrayé, on serait ça nous tuerait. Et s'il fallait qu'il nous montre également tout le chemin de souffrance par laquelle nous allons devoir passer également à sa suite et comme lui, ben ça aussi, ça nous effraierait tellement. La route est longue. Les transformations demandent du temps. On a un chant, un chrétien je croyais être, mais j'ignorais le bonheur que Jésus, mon divin maître, vint apporter dans un cœur, et le refrain fait, le couplet qui fait, et tranquillement j'avance, m'appuyant sur mon sauveur. Son adorable présence me donne le vrai bonheur de mémoire. Et tranquillement j'avance, René Skine qui a fondé l'église ici, il avait la sagesse des années et il disait non, pour moi c'est pas tranquillement j'avance, c'est péniblement j'avance, péniblement j'avance. Les transformations demandent du temps. Les transformations demandent du temps. Une transformation continue. Dieu fait concourir toutes choses à notre bien, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, Romains 8, 28, qu'on a évoqué tout à l'heure. Dieu dispose de toutes nos circonstances pour nous faire comprendre sa volonté bonne, agréable et parfaite, et nous pousser ainsi au changement, pour que nous changions, pour que nous fassions des progrès. En effet, on était dans les histoires des rois ces derniers temps, et on a vu comment le grand roi Salomon, rempli de sagesse, comment il a bien commencé sa vie, et comment il a catastrophiquement terminé. On a vu également dernièrement l'histoire du roi Asa, et ce sont pas les seuls à qui cela arrive. Le danger du pèlerin, c'est de s'arrêter en chemin, d'arrêter d'être un pèlerin, de planter définitivement sa tente quelque part, en considérant, bon là, je suis allé assez loin, je pense, maintenant, je me repose, je m'arrête un peu, je profite du paysage. Le danger, c'est de penser combien maintenant on mérite bien un peu de repos, et on oublie d'où on est parti, et on oublie où on doit aller. Et on est là, on s'est arrêté. On va considérer maintenant ensemble tout ce qui concerne ces freins à la transformation. La transformation est continue, mais il y a des freins à la transformation. Le principal, Jésus, l'apôtre l'a écrit dans notre verset, c'est la culture ambiante. Par définition, on ne connaît rien d'autre que ce qu'on connaît, c'est évident. Et être enfermé dans une culture, c'est un frein à la transformation. Peut-être qu'on pense aujourd'hui c'est mieux qu'avant, à l'époque voilà, les gens ne savaient pas, et dans le passé, mais maintenant on a accès à la culture plus facilement, on est plus ouvert à l'autre, celui qui est différent, et donc le monde devrait mieux se porter que ce qu'il se portait avant. Mais hélas, même si on a de grandes facilités pour voyager aujourd'hui, pour découvrir d'autres cultures, d'autres peuples, les facilités de voyage ne forment plus tellement la jeunesse comme avant. On peut voyager d'un bout à l'autre de la terre sans rencontrer vraiment de choc culturel. Tout est un petit peu aseptisé et on arrive dans des lieux, tout est organisé, tout est bien, tout est propre pour recevoir les touristes que nous sommes. Et finalement, on n'apprend pas grand-chose de ce qu'est notre culture pour la confronter à une autre. Et à Internet, c'est le même problème. Elle est venue avec beaucoup de promesses de liberté. Internet devait être le moyen d'avoir un accès facile à toute la connaissance, et donc par là trouver de la liberté. Mais on sait ce que ça a donné, les algorithmes de recherche nous dirigent toujours vers ce qui nous plaît en fait, et donc on est un petit peu comme le jeune homme dans le dessin, dans la bande dessinée, enfermés. Hein, on n'arrive pas à se dégager de notre culture ambiante. Et l'intelligence ne devrait pas arranger les choses, l'intelligence artificielle, puisqu'elle ne fera que nous répéter ce que l'on sait déjà. C'est pourquoi nous avons lu « Ne prenez pas comme modèle le monde actuel. » Ça, c'est la Bible du semeur. « Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons. » Parole de vie. « Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » La bonne nouvelle, c'est que Jésus vient nous rencontrer dans notre culture. Il vient dans notre culture. Dans les évangiles, hein, c'est biographie de Jésus, Jésus casse régulièrement les barrières culturelles pour venir chercher ce qu'il veut sauver. Matthieu le publicain, il a été devant son guichet et il n'a pas eu peur de l'appeler et de se faire inviter chez lui. Les lépreux à qui il a posé la main sur lui. La femme samaritaine à qui il a parlé, la femme adultère qu'il a protégée, l'aveugle né qui ne lui demandait rien et qu'il a guéri. Jésus vient nous rencontrer dans notre propre culture pour nous offrir cette transformation. Les freins à la transformation, c'est la culture ambiante et donc on ne doit pas, on doit se dégager de cela sans détacher. Il y a un autre frein à la transformation, c'est le confort, la routine, l'autosatisfaction. On connaît bien la parabole du royaume des cieux, de la semence. Il y a de la semence qui tombe qui est étouffée par les herbes. Il y a les herbes qui lui prennent tout. Elle empêche de porter du fruit. Et on peut facilement laisser pousser de l'herbe dans nos vies, ce qui fait que le confort et la routine et l'autosatisfaction font qu'on arrête d'être transformé. La transformation stoppe. Pour les plus âgés, des gens comme moi peut-être, qui ont une longue vie chrétienne, il y a aussi le danger de s'immobiliser, de ne plus vouloir de changement, de ne plus accepter de remise en question. On pense qu'on sait déjà tout, qu'on a déjà tout vu. Hein, c'est ce qui guette les gens après 50 ans. Et il n'y a plus on ne veut plus se laisser instruire, remettre en question, et la transformation peut s'arrêter. C'est un frein sur le chemin sur le chemin du Seigneur. Un autre problème, donc dans la parole de Dieu, Jésus nous encourage à la vigilance. Il nous dit « Veillez et priez, veillez et priez, ne vous endormez pas. » Un autre frein, c'est la peur du changement. Ceux qui font de la relation d'aide, hein, c'est les personnes qu'on va trouver quand on a un problème relationnel, qui sont là pour aider. Les thérapeutes, ils disent que le plus difficile, ce n'est pas d'arriver à trouver une solution pour les personnes. C'est pas ça le plus dur. Le plus dur, c'est que le désir du changement face à la solution, le désir de changement soit suffisamment fort pour que les solutions soient mises en œuvre. Bien souvent, la peur du changement prend le dessus. La grande inconnue que serait une guérison. Vivre, être débarrassé de quelque chose qui nous accompagne depuis toujours. Est-ce qu'on peut arriver à est-ce que c'est possible? Alors, dans les thérapies, les personnes se contentent bien souvent d'un simple soulagement. Elles préfèrent continuer de vivre avec leurs problèmes que de voir leur vie complètement bouleversée. La peur du changement. Mais si c'est Jésus qui nous appelle au changement, pourquoi aurions-nous peur? Pourquoi aurions-nous peur? Il nous aime, il a donné sa vie pour nous et nous savons qu'il veut le meilleur. On peut vraiment avancer avec lui sans crainte dans le changement de nos pensées. Un autre obstacle, c'est les échecs, je pense. Et quand il y a de l'adversité, des échecs, on tombe régulièrement, on recule, et notre ennemi se moque. Tu n'y arriveras pas. Tu vois les autres comme ils font des progrès, et toi, regarde, tu es trop nul. Et c'est un problème que l'apôtre Paul a délicatement mis en évidence dans la lettre aux Romains, au chapitre 7, versets 18 et 19. Il écrit ceci pour nous. Entre autres choses, je prends juste un extrait de tout ce chapitre 7 qui traite de ce sujet-là. Verset 18, 7, 18. « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » Au verset 8, il est écrit « Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Les échecs, les reculades, Dieu avait prévu cela. Il savait que cela allait arriver. Et nous avons l'assurance que le sang de Christ nous purifie de toute iniquité. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jésus-Christ a pris sur lui notre condamnation et nous sommes libres de nous relever et de persévérer. Alors, soyons encouragés ce matin. Nous ne sommes pas non plus les seuls sur le chemin de la transformation. On a l'impression des fois que tout le monde avance sauf nous, qu'on est toujours à baigner dans les mêmes problèmes, dans les mêmes difficultés qui arrivent. Mais chaque frère, chaque sœur a des difficultés avec lesquelles il lutte et qu'il luttera toute sa vie. C'est pas les mêmes. On les voit pas parce qu'on les connaît pas et parce qu'on est différent. Mais il faut savoir que ensemble, on avance. On a la chance de pas être seul sur le chemin de la transformation. Nous cheminons à côté de frères et de sœurs qui sont précieux. Alors, pour conclure, quel choix pour ma vie chrétienne? Il s'agit donc pour choisir ce qui est bon, pouvoir choisir ce qui est bon, agréable et parfait, ne pas se conformer au monde. Je crois qu'on l'a bien compris ce matin. Ne pas se conformer au monde, à l'inverse du jeune homme, là. Accepter, rechercher, recevoir continuellement la transformation de nos pensées et de notre intelligence pour des choix qui soient bons, agréables et parfaits. Et dans la suite de l'épître qu'on va voir dans les semaines à venir, dans la suite du chapitre 12, l'apôtre entre dans les détails, ce en quoi ressemble une vie bonne, agréable et parfaite pour la gloire de Dieu et pour la joie de notre Seigneur. Alors, je vous propose de prier maintenant. On peut avoir un petit moment de prière. Et on pourra chanter un chant.